Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans le supplément SmackDown de Catch Up, notre émission qui résume et analyse chaque semaine le dernier épisode du show bleu de la WWE SmackDown Live. Je suis Irem et je suis accompagné, comme toujours, de l'ami Giscal. Salut Giscal.
Salut Irem, salut tout le monde.
Allez, on est au surlendemain de l'événement le plus extrême de la WWE. Il est temps de nettoyer un petit peu la maison bleue. Et ça commence avec Shane qui empêche tout simplement Kevin Owens d'accéder dans l'enceinte de l'arena. Ouais. Il est accompagné d'une jeune escorte de jeunes rookies. Il dit à Kevin Owens qu'il n'est pas le bienvenu ce soir, mais qu'il a prévu ce soir justement une espèce de forum ouvert hein, où chaque catcheur pourra faire part de ses griefs ou alors au contraire complimenter le fils du patron. Hein, parce que nous allons le découvrir. Il y a des gens qui sont très heureux sous la gouvernance de Shane O'Mac. Donc du coup, ça s'enchaîne par une petite séquence toujours un petit peu étrange hein, où tout le roster est sous le titan tronc bien aligné. En premier les bons élèves et puis derrière un petit peu tout ce qui fait de l'occurrence, c'est un petit mélange quoi, mais c'est on fait un petit peu la photo de classe quoi de SmackDown. C'est intéressant de voir qu'il y a des gens qu'on n'a pas vu depuis deux mois,
oui,
comme par exemple Buddy Murphy qui lui est content de Shane O'Mac, mais il n'avait pas besoin de que Kevin Owens prenne la parole pour lui. On a qui d'autre? Charlotte Flair pareil hein, qui est très contente de Shane O'Mac, qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, Charlotte Flair, à part un petit coucou dans la Gorilla Position lors d'un pay-per-view. Mais Liv Morgan l'interrompt en lui disant que de toute façon, il n'y a rien de vrai chez elle.
Ouais.
Effectivement, en parlant de la poitrine que Charlotte Flair s'est faite regonfler récemment. Alors, c'était très drôle, je ne sais pas si tu as vu, on voyait Andrade et Cien Almas sourire hein, quand Charlotte prenait le micro et pareil, du côté de la fille Flair, c'était très drôle hein, quand on connaît un petit peu les amours qui se... L'histoire amoureuse. Les amourettes de Stamford. Ça, c'était plutôt fun. Andrade Cien Almas aussi a pris le micro via sa représentante légale, Zelina Vega. En fait, ce soir, sauf si je n'ai pas compris à quoi ça servait, on nous a booké tous les matchs de la soirée.
Oui, c'était une façon originale de faire
ça. En utilisant cette séquence, Apollo Crews l'a ramené également. Bon, bon, toujours un petit déficit de charisme hein, chez Apollo Crews, mais bon, on ne peut pas avoir la panoplie complète. Et Elias aussi, qui dit du bien du fils du patron, mais le New Day lui coupe la parole. Et Kofi Kingston se positionne en porte-parole en disant « Bon, bah voilà, tout le monde a une chance de réussir, c'est comme ça, un SmackDown, normalement. » Évidemment, Shane O'Mac, par un petit tour, un petit ordre, coupe le micro de Kofi Kingston, et après, alors là, c'est assez chelou, après c'est Cesaro qui arrive, alors que tout le monde se barrait, je crois, repartait sous le titan tronc, et il demande un match contre Aleister Black, qui l'obtiendra, assez facilement d'ailleurs.
Oui, très facilement.
Shane O'Mac, vous voyez, il suffit de demander, quand on demande, on a. Et la séquence se termine évidemment par Kevin Owens, qui surgit hors de la nuit, de la même façon qu'avait surgi Drew McIntyre derrière le Taker à Extreme Rules en arrière-plan comme ça, tout flou, et il lui place avec beaucoup de difficulté un stunner.
Oui.
Shane, je sais pas qu'on pouvait botcher un stunner à ce point-là.
Il faut demander à Shane. Ouais.
La vache, ouais, c'était assez assez gênant. Et donc, bah voilà, Kevin Owens évidemment qui va être un petit peu l'électron libre de ce show. Qu'est-ce que tu as pensé de ce forum ouvert? Qu'est-ce que tu aurais dit, toi, à Shane, si tu avais eu l'occasion d'ouvrir ton cœur?
Oh là là, tellement de choses à dire à Shane, mais j'ai trouvé ça assez sympa. Encore une fois, là, je trouve que depuis quelques émissions, on essaye de nous faire varier un petit peu les ouvertures de show. Je trouve que c'est assez rafraîchissant. Voilà, surtout à la SmackDown, on essaie de sortir un petit peu du classique promo micro au centre du ring pour lancer l'émission. Donc là, ils nous ont proposé cette petite séquence backstage qui était assez kitschoun. Hein. C'était marrant. Ils essayaient de reproduire une sorte d'entrée avec un petit portique de sécurité de détection de métaux là alors qu'ils avaient clairement posé ça dans un couloir de l'arrière-boutique du stade. Là, c'était, tu voyais que c'était un petit peu dans les backstage.
Là
loin,
où personne là. N'entre, quoi.
Là où personne n'entre jamais, c'est clair. C'est la porte de secours, tu sais. Mais bon, mis à part ça, j'ai trouvé que c'était assez rafraîchissant, tu vois, par rapport à... Il y avait la semaine dernière, il y avait le coup du parking, tout ça, donc c'est assez cool. Et puis après, bah voilà, ce town hall meeting, donc c'est locution très, très américaine, c'est un forum ouvert, c'est ce que t'as dit, voilà, c'est tout à fait ça. Et je trouvais ça très, très sympa, les prises de parole, voilà, on a donné à Buddy Murphy... le secret le mieux gardé de SmackDown, comme ils ont dit.
Ouais.
Un peu ironiquement, je trouvais ça drôle, voilà, cette capacité à s'auto, un petit peu à se moquer, s'auto-dérision sur la gestion du roster. Ils ont proposé à Liv Morgan de parler, à Apollo Crews. Donc, tout le monde a eu le droit de briller un peu, c'était cool. Mais bon, voilà, on pouvait s'y attendre. Il n'y a pas eu de gros griefs, même si Roman Reigns, je ne sais pas si tu en as parlé, mais c'est quand même lui qui a parlé en premier.
Ouais,
en mettant un gros fuck à Shane McMahon en disant « Écoute, personne ne te respecte, tu peux kiss my ass, toi aussi, il s'est barré. » Donc c'était quand même le statement, hein, c'est le leader du vestiaire, c'était le gros statement. Et puis après, derrière, c'était un petit peu un festival de l'échange de bottes et puis d'opportunités pour les outsiders de parler. J'aurais aimé peut-être un petit peu plus de trucs à la Roman Reigns, quoi. Voilà, peut-être montrer que le vestiaire était encore plus chaud contre Shane McMahon, parce que c'est ce qui semble un petit peu se dessiner depuis quelques semaines. C'est vrai que voilà, Shane McMahon multiplie les rivaux, multiplie les ennemis, et on sent qu'il est de plus en plus acculé devant cette rébellion qui se forme. Peut-être qu'il y avait moyen de faire un truc un petit peu plus chaud, un petit peu plus électrique sur ce forum ouvert, comme l'avait bien ouvert Roman Reigns. Je trouvais qu'après, c'était peut-être un peu sage, même si c'était drôle. Enfin, il y avait des petits trucs, c'est toujours rigolo de regarder en arrière-plan ce qui se passe, les réactions de chacun. Je ne sais pas si tu as vu aussi, quand il y a la caméra qui passe en revue, tu as Kofi Kingston au milieu de Biggie et Xavier Woods qui jouent à se taper leurs ceintures les unes contre les autres comme un... Je sais pas, en rythme, là, c'était assez marrant. Enfin, il y avait tout plein de petits trucs comme ça qui étaient drôles.
Il y avait aussi Otis qui était électrique derrière.
Oui.
À tout moment, il pouvait faire son caterpillar. Je veux dire, à un moment, puis il va retourner derrière. Tu sais.
Voilà. Ouais. Donc voilà, écoute, sympa, mais peut-être un peu sage par rapport à la storyline qui se dessine. Mais bon, rafraîchissant. Ouais.
Ouais, très sage, t'as raison. Moi, j'ai trouvé, voilà. Du coup, on a senti un peu la longueur. Effectivement, souvent, dans ces forums publics, au début, ça commence gentiment. Et puis, il y a toujours un moment où t'as un mec
ça
qui
pète.
Va apporter. Voilà, il va mettre le doigt sur un gros bouton rouge. Et puis, ça pète. Voilà, prise de bec.
C'était l'inverse. Là.
Ouais, là, c'est tout d'un coup, ça s'est un peu calmé. C'est vrai que c'est pas vraiment l'histoire qu'on était en train de nous raconter. Où le roster n'est pas content, là, clairement, c'est un peu 50-50. Ce qui est grosso modo la vie, quoi, telle qu'elle est dans le monde entier. Enfin, t'as la moitié des gens qui disent oui, l'autre moitié des gens qui disent
voilà.
Non. Et puis, ça se termine jamais. Donc, c'est vrai que c'était un petit peu sage. On aurait pu en profiter pour, comme tu l'as dit, pour... faire quelque chose d'un petit peu plus électrique, mais c'était pas le cas. Mais en tout cas, on a pu passer en vue quelques visages qu'on ne voyait plus. Cesaro, du coup, lui, il s'en est bien tiré, puisqu'il c'est le seul véritablement qui a fait une réclamation. Il a obtenu son match, donc sa revanche, hein, face à Aleister Black, dans une redite de ce qu'ils avaient fait, l'excellent match qu'ils ont eu à Extreme Rules. Peine perdue pour Cesaro, qui n'a pas réussi à prendre le dessus une fois de plus sur Aleister Black, qui a placé une fois de plus son Black Mass tellement puissant qu'il a dégommé le protège-dents du Suisse. C'était un petit sprint, voilà, un dernier petit Dijo pour ceux qui avaient apprécié leur joli plat qu'ils nous avaient offert là, à Extreme Rules. Donc c'était sympa de revoir Cesaro. Le match-up a continué, mais qu'est-ce qui peut se passer là pour les deux personnages? On ne sait pas trop.
Tout reste ouvert. Aleister Black, j'ai eu très peur, c'est vrai, quand j'ai vu ce rematch, parce que c'est un petit peu les spécialistes de faire un rematch le lendemain du pay-per-view et faire un booking 50-50 et Cesaro qui aurait repris sa victoire tout de suite, qui, je trouve, aurait un petit peu neutralisé l'effet de Extreme Rules très positif pour Aleister Black. Donc heureusement, ils sont pas allés là-dedans. Néanmoins, j'aurais peut-être préféré une victoire un tout petit peu plus disputée, peut-être un petit peu dans la même veine que ce qu'il y a eu à Extreme Rules, quitte à nous faire une redite avec quelques spots différents, ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Mais voilà, peut-être un truc un tout petit peu plus disputé, parce que c'est vrai que Cesaro, je trouve, s'est fait balayer peut-être un poil trop facilement, ce qui est un petit peu dommage, parce que voilà, je trouvais qu'à Extreme Rules, ils avaient vraiment placé le curseur parfaitement. C'est exactement ce que je voulais entre les deux hommes, à savoir une grosse bataille.
Ils se rendent des coups pour quoi.
Ouais, des gros costauds, et finalement, ça se joue presque sur un rien. Voilà, ce Black Mass qui est à la vitesse de l'éclair, là, qui peut te coucher quelqu'un d'un coup, et puis bah voilà, Cesaro qui s'était fait cueillir, et puis au final, les deux qui sortaient de là comme étant vraiment des colosses sur lesquels il allait falloir compter, avec avantage Aleister Black. Là, on a peut-être eu peut-être un truc un poil expéditif qui fait que bon bah voilà, Cesaro est finalement balayé un poil facilement. C'est dommage, même si bon, je suis pas trop inquiet. Gardons le positif, à savoir que Aleister Black maintenant est. Enfin, j'aime beaucoup le travail là qu'ils ont fait sur Aleister Black. Il est très costaud. Il a une aura vraiment qui commence à devenir intéressante. Et puis, de cette victoire définitive, il peut aller vers un petit peu ce qu'il veut, voire assez haut, je pense. Donc, affaire à suivre pour Aleister Black. Je suis assez confiant là pour son futur proche.
Ouais, effectivement, cette deuxième manche était, ça faisait un peu genre, au fait, hein, c'est bien Aleister Black hein, qui avait gagné.
Pour ceux qui n'ont pas vu le pay-per-view.
Voilà, n'oubliez pas, c'est lui hein, qu'on va pousser. Mais ouais, je m'inquiète pas trop pour ces deux bonhommes, et comme tu le dis, le boulot est plutôt bien fait, et on a évité l'écueil du 50-50. Effectivement, j'ai eu peur. Cesaro était assez coutumier du fait. Voilà, c'est un peu un habitué de la chose. Avait vu avec Ricochet précédemment, là, au moins, c'est clair. Et c'est ce qu'on veut, hein. On veut des choses claires.
Ouais, on veut des choses claires. Savoir sur qui se projeter, qui va être...
Exactement. Une sur qui on ne va pas pouvoir se projeter, ou alors il va falloir se projeter à distance, c'est Liv Morgan, puisqu'elle a obtenu un match face à Charlotte, hein, on vous l'a dit. Hein. Tout a été booké lors du forum public en début de show. Charlotte contre Liv Morgan. Bon, Charlotte qui dispose assez facilement de Liv Morgan, mais qui a quand même montré voilà, qu'elle voulait se battre. Mais Charlotte voilà, contrait le Rana avec une powerbomb et le figure 8 hein, pour terminer l'affrontement dans un tout petit match. Et à la fin, juste après post-match, on a Liv Morgan qui n'est pas contente. Elle va à la table des commentateurs, elle arrache le casque de Corey Graves qui était en train... de dire du bien en plus, je crois, de Liv Morgan, toi. Enfin,
je sais plus trop.
Mais en tout cas, elle avait une annonce à faire. Elle avait besoin d'un micro et elle était énervée, elle était remontée. Elle est blessée en plus, elle tire la patte. Elle nous explique que la prochaine fois qu'elle reviendra, quand elle reviendra, donc on suppose après sa blessure, ou en tout cas, elle va essayer de se retrouver, se ressourcer. Elle sera réelle, quoi, real, c'est-à-dire elle va être elle toute entière et puis laisser tomber la langue bleue et les effets de peinture et tout ça.
Les cheveux roses, tout ça.
Ouais, les cheveux roses, les côtés bubblegum et nous revenir un petit peu rebuildés, un petit peu peut-être gimmickés, on ne sait pas trop. Mais voilà, alors espérons que ce ne soit pas un coup dans l'eau, parce que ce genre de procédé, c'est autant ça peut faire plouf, parce que on nous tease... on va dire le retour un petit peu avec un push d'un low quart d'heure, et au final ça se retrouve dans main event à faire des matchs que personne ne regarde, ou à l'inverse attiser la curiosité des gens pendant quelques semaines et effectivement revenir avec un repackaging d'une fille qui a un potentiel de personnage quoi, hein, Liv Morgan, voilà, on a besoin de personnages un petit peu comme ça dans la division féminine, donc pourquoi pas? Qu'est-ce que tu en penses de toi?
J'en pense beaucoup de bien. Je trouvais que c'était, je trouvais que c'était très intelligemment fait. Ça pour moi, c'est très très simple, très efficace, et c'est du low risk high reward comme ils disent. Hein. C'est faible investissement haut potentiel. C'est-à-dire que ça coûte rien. Ils tentent un petit coup avec Liv Morgan. il lui donne sa chance tout en bouquant un segment en fait qui bénéficie un petit peu tout le monde hein, parce que voilà, Charlotte elle était plus là depuis longtemps, donc elle se dans l'émission elle fait un petit segment micro efficace et puis derrière elle explose convenablement une locardeuse donc elle se remet un petit peu en jambe tranquillement et dans l'esprit du public. Et puis à côté de ça, bah la jobbeuse du jour, tu la jettes pas à la poubelle non plus, tu teases un petit breakdown émotionnel qui va peut-être aller vers un repackaging derrière. Et puis bah écoute, voilà, après tu peux miser quelques billes sur une catcheuse comme ça qui a un potentiel, qui avait déjà un mini capital sympathie. Tu te dis bah écoute, tu vas voir est-ce que le public va accrocher à l'histoire qu'elle va essayer de raconter. Et puis si ça accroche pas, écoute, c'est pas bien grave. Si ça accroche, ça te fait potentiellement un nouveau petit personnage dans ta division féminine à SmackDown et du coup c'est très positif. Donc j'ai trouvé que là, en 3-4 minutes, c'était très bien fichu. Voilà, c'est quelque chose qui peut payer dividende un peu plus tard ou alors tomber dans l'oubli et ce ne sera pas très très grave.
Voilà, un placement sans risque hein, par les brokers de catch-up. Hein, conseiller en investissement avec Giscal hein, qui vous donne des astuces hein, pour pénétrer le monde de la finance.
Voilà. Mettez quelques billes, pas toutes vos économies, mais mettez un petit peu. Voilà,
voilà, on réfléchit, on parie avec son estomac, pas avec son cœur. C'est l'un des nombreux conseils que Giscal vous donne lorsqu'il s'occupe des modules de pronostic. D'ailleurs, t'as fait un bon score hein en prono,
j'ai fait une nouvelle fois un plutôt bon score. Ouais, c'est vrai que j'ai fait 9 sur 11 cette session. J'étais assez content.
Pas mal, c'est pas mal du tout. Hein. Toujours en tête, j'imagine.
Toujours en tête, en tête.
Allez, il faut aller le détrôner. Allez le détrôner. Bon, une autre qu'il va falloir aller détrôner, c'est Bayley. Oui. C'est Bayley, c'est elle qui a la ceinture. Elle a disposé assez facilement, comme l'ont judicieusement remarqué Rafa et Chris dans leur analyse d'Extreme Rules, que je vous invite à écouter si vous ne l'avez pas déjà fait. La menace.
Très facile.
C'était dur. t'as perdu un point là-dessus, non?
Ouais, là j'ai perdu un point. Oui.
La menace Cross et Bliss est écartée. On retourne, on se refocalise un petit peu sur le roster bleu, à notre grand plaisir, il faut l'avouer. Puisqu'on a un match ce soir qui oppose donc Mandy Rose et Sonya Deville à Ember Moon, qui devait choisir une partenaire. Évidemment, vous l'avez deviné, hein, cette partenaire, c'est Bayley. Les deux gentilles disposent très facilement des deux méchantes. C'était un squash, tout simplement, il faut le dire. Et juste après, Bayley chope le micro. Elle nous explique donc qu'elle est là pour... Comment on traduit en français elevate une division
élever, ou en tout cas essayer de
pousser, hein, mettre à l'honneur,
mettre en valeur
la division féminine de SmackDown, et que il faut de la compète, hein, il faut de la compète. On approche de SummerSlam et il faut un challenger. Il faut un challenger, et du coup, on fait un peu monter la mayonnaise. Il y a une intervieweuse hein, qui est là. Et Bayley fait un petit peu roulement de tambour. Elle fait oh là là, il faudrait que je trouve quelqu'un qui aime la compète et qui mérite une opportunité.
Qui a du charisme,
qui met des lentilles de couleur, qui était NXT. Et là, évidemment, c'est Ember Moon qui est choisi. Ember Moon est folle de joie, l'impression qu'elle a déjà gagné. Parce qu'elle saute dans tous les sens. Je me demande même s'il n'y a pas sa musique qui retentit. En tout cas, c'est l'impression que ça donnait. Oui. Qu'elle fait le tour du ring pour célébrer cette position de challenger officialisée directement par la championne. Qu'est-ce que tu penses de ces champions qui choisissent leur challenger? Est-ce que ce n'est pas réservé normalement à John Cena? Je suis désolé, mais John Cena peut se permettre de choisir son challenger parce que c'est un honneur de l'affronter et qu'il est tout en haut de la pyramide. Mais Bayley.
Ouais, c'est vrai que je trouvais ça un peu léger, mais bon. Dans l'idée, j'ai quand même plutôt bien aimé le segment dans son ensemble. Je trouvais que, écoute, Ember, voilà, cette équipe, Ember Moon qui choisit Bailey pour le tag team match. Elles arrachent une victoire décisive et puis ils en profitent. Enfin, ils ont un petit peu tout repackagé. On a fait une sorte de condensé de ce qui aurait pu se passer sur, en effet, peut-être 2-3 semaines. Mais hop, en un segment de 2 minutes assez efficace, Ember Moon qui était en bisbille là, avec Mandy Rose et Sonya Deville, qui solde ça, hop, en 1 minute 30. Terminé, bonsoir, circuler, il n'y a rien à voir. Bailey, elle, qui venait de sortir de son histoire avec Nikki Cross, Alexa Bliss, il fallait qu'elle trouve une nouvelle challengeuse. Et puis bah, là, hop, petite victoire d'Ember Moon, ça impressionne. Bailey, elles sont toutes les deux dans le ring, ça tombe bien. Hop là, file le micro, c'est booké. Bon, c'est vrai que c'est super expéditif. À la limite... Écoute, pourquoi pas pour le coup, parce que je pense que là, il fallait... Ils ont pris le parti d'abandonner cette histoire avec Nikki Cross, Alexa Bliss de manière assez, assez étrange, parce que c'est vrai qu'ils avaient énormément investi là-dedans.
Ouais, ça pour moi c'est un gros flop au global quoi. Enfin, ouais, c'est vraiment, et je pense que c'est chelou. Fini là.
Ouais, c'est, bah, fini, ouais, c'est très chelou, elles se sont fait balayer à Extreme Rules, et puis pour ceux qui ont vu et écouté l'analyse de Raw, enfin en tout cas vu Raw à minima, manifestement l'avenir n'est pas... aux couleurs d'Alexa Bliss et Nikki Cross non plus du côté de Monday Night Raw. Donc c'est très étrange. Ils ont complètement lâché cette affaire dans laquelle ils avaient investi bien 4 semaines sur les deux shows.
Ouais.
Bon, et bah écoute, quitte à reboot, à la limite, moi j'ai trouvé que là, SmackDown, c'était pas trop mal. On a une challengeuse qui est appréciée du public, qu'on aimait, enfin en tout cas pour qui on voulait voir une opportunité depuis un petit moment. Voir ce qu'elle avait dans le ventre un petit peu dans le main roster depuis un petit moment. Bon bah là elle va avoir une sacrée opportunité parce qu'on parle d'un match à SummerSlam pour le titre quand même, donc c'est quand même pas rien.
Bon, elle a 3 semaines pour se faire attaquer backstage par Charlotte et se faire piquer sa place, hein.
Écoute, c'est vrai qu'il va falloir vous composer avec Charlotte qui est revenue pendant la même émission.
Ouais.
Donc on va voir ce qui va se passer dans les 3 prochaines semaines. On va dire que voilà, c'est encore une fois un segment que j'ai trouvé assez efficace, dans le sens où on book un match que les gens ont plutôt envie de voir, on passe à autre chose, on reboot, on donne une chance à quelqu'un. Je retrouve, on va dire, des réflexes de SmackDown que j'apprécie. Donc,
Il ne reste plus qu'à épicer tout ça. Hein. On a quelques semaines pour justement...
Oui, voilà, maintenant il va falloir épicer, assaisonner tout ça. Ouais, exactement. Voilà,
parce que là, sinon c'est juste un petit plat vite fait à froid qu'on vous donne pour nous faire plaisir parce que... on sait, vous la voulez, Ember Moon ? Allez, tenez la voix.
Allez.
C'est
sûr.
Il va falloir épicer un petit peu tout ça, lui donner quelques belles victoires à Ember Moon aussi, parce que c'est bien beau d'avoir battu Mandy Rose et Sonya Deville dans un tag team match, mais elle n'a pas forcément été impériale tout au long de cette histoire. Elle s'est fait un peu marcher dessus malgré tout.
Ouais.
Du coup, là, nous, on sait pour avoir regardé NXT qu'elle a un gros potentiel et ça pop dans le public parce que. Elle a un look, elle a une entrée, et que t'as dans les spectateurs, t'as des gens qui la connaissent. Donc, il y a une espèce d'émulation, mais on peut pas se contenter de ça, il faut évidemment.
Non, c'est vrai que moi, la petite frustration quand même que j'ai sur ce segment, c'est que c'est vrai qu'encore une fois, bon, alors, ils avaient pris le parti cette semaine de mettre beaucoup de matchs. Enfin, je pense que j'ai jamais vu autant de matchs à SmackDown depuis une éternité.
Ouais.
Malheureusement, un petit peu au détriment, justement, peut-être de la qualité de ce qu'ils auraient pu raconter un petit peu plus dans le ring, parce que. Bah, tu vois, moi, j'aurais pas craché sur... quitte à propulser un petit peu Ember Moon dans la title picture comme ça, bah, je pense que sans... quitte à aussi ne pas trop abîmer l'image de l'équipe, la tag team Mandy Rose, Sonya Deville, qui est une vraie tag team quand même, ils en ont pas beaucoup, mine de rien. Bah, tu vois, un petit match de 7-8 minutes très disputé avec une prestation vraiment héroïque de Ember Moon qui serait passée... qui aurait été vraiment surmonter les obstacles de ouf pour arracher une victoire de dingue avec Bailey, qui aurait du coup justifié un petit peu tout le tintouin qu'il y a eu après le match.
C'est
je pense
Bailey
que ça aurait été plus habile.
Voilà. Bailey, elle a fait l'éloge de la compétitivité, de l'esprit très compétitif, hein, voilà, des performances d'Ember Moon, sauf qu'on venait de voir quoi, un squash de moins de 2 minutes, donc c'est un petit peu étrange.
Donc,
allez, ils ont voilà, il n'y a plus qu'à écrire, à booker, et ça ils peuvent faire, ils savent faire. Le New Day est là, pourtant parce qu'ils ont plein de ceintures, le New Day, t'as vu ça, c'est des vrais marchands de ceintures dorénavant. Xavier Wood, donc ça balance des blagues. Il dit que Kofi, on va l'appeler Simon Phoenix parce qu'il est Demolition Man. Donc pour tous ceux qui adorent les films des années 90, c'est action. C'est le film avec Stallone, c'est ça, Demolition Man.
Ouais, c'est ça.
Et voilà, ils ont trouvé l'or au bout de l'arc-en-ciel, comme on dit, sauf que c'est l'or un peu blanc qu'ils ont autour des hanches. C'est Daniel Bryan qui avait une annonce ce soir. Ah oui, alors ça, j'ai pas très bien compris au final. Bryan avait une annonce à nous faire qui allait un petit peu altérer sa carrière, c'est ça ?
Oui, il a fait en fait. Il y a eu une promo exclusive là après Extreme Rules sur la chaîne YouTube. Une promo assez sympa d'ailleurs, que je vous conseille assez hypnotisante là de Daniel Bryan. Qui du coup teasait un annoncement qui allait en effet altérer sa carrière à SmackDown. Et donc, du coup, nous étions dans l'attente de savoir ce qu'était cet annoncement.
Mais que dalle. Il nous en a mis une, même deux ou trois fois, puisqu'il nous a fait un peu une crise Jericho, là, à venir, rien dire et à repartir. Du coup, on n'en saura pas plus. C'est Samoa Joe qui débarque. Du coup, il voit une porte ouverte, une opportunité. Voilà, le mec, il vient, il débarque. C'est un peu le spécialiste, Samoa Joe. Il est d'humeur là pour un petit match de championnat. C'est Elias qui arrive ensuite et dit que Joe, t'as eu ta chance, mec. Moi, la mienne. Je suis quand même la plus grosse acquisition de SmackDown. Et puis, c'est Randy Orton qui arrive aussi. Il paraît qu'il voit des portes ouvertes. Il entre, Randy Orton. Lui aussi il veut son titre, surtout il y a un historique entre Randy Orton et Kofi Kingston. Alors je sais plus ce qu'il lui sort, il lui sort un truc, je sais pas si tu te souviens comment il a formulé ça, mais il lui fait un petit clin d'œil à leur passé. Donc on voit que les deux ont le sourire jusqu'aux oreilles, et tout ça évidemment se transforme en six man tag team match player, comme s'amuse à le répéter trois ou quatre fois les membres du New Day. Donc ça, c'était assez drôle. Orton dit non, c'est bon, I'm good. Ça ne m'intéresse pas, moi, ces matchs à la Teddy Long, là, j'en ai bouffé pendant des années, donc c'est sans moi, je veux juste des matchs en un contre un. Et là, Kofi, il commence à se moquer en disant, tu fais la vipère, là, toute droite, mais au final, tu te couches, quoi. Randy Orton n'est pas content. Et on a notre match en 3v3 avec quand même du costaud là, entre les cordes. C'est bien Randy Orton qui va provoquer, et ça c'est intéressant, la première défaite officielle de Kofi Kingston dans un match, n'importe quelle configuration de match d'ailleurs. Puisque suite à un trouble, ou alors tu vas me contredire, mais il y a un Trouble de Paradise sur Elias et après un RKO sur Kofi Kingston et c'est terminé. Et...
Je crois qu'il avait perdu il n'y a pas longtemps justement pour la première fois.
Peut-être que c'est tellement récemment que...
Je crois qu'il y a 2-3 semaines, il ne s'était pas évanoui justement sur sur Samoa Joe qui l'avait étranglé là ou...
Pendant un match ?
Ouais, pendant un match, il me semble.
Ah, ouais. Et que du coup, c'est ça qui avait provoqué son title shot, hein.
Non, son title shot, il avait été booké juste parce qu'il l'avait attaqué sur la rampe à Raw au lendemain de Stomping Grounds. Mais je crois qu'il avait perdu dans un match par équipe, justement. Comme
et
ça.
Ben dans l'univers de IRM, c'est la première fois... C'est la première fois que Kofi Kingston y perd un match depuis WrestleMania. Voilà, et si vous n'êtes pas content, et ben vous le dites dans les commentaires. Si vous n'êtes pas d'accord avec ma réalité, toujours est-il que, évidemment, un RKO sur Kofi Kingston, une victoire de Randy Orton, et je crois que là, de toute façon, on en avait déjà parlé, hein. Moi, c'était clairement l'affiche que je voulais voir pour SummerSlam. Randy Orton contre Kofi Kingston, je crois que les packages vidéo, là, ils sont prêts à être lancés.
Oh bah oui, là, tout est prêt, là.
Donc, on va pouvoir se régaler. Qu'est-ce que tu as pensé un petit peu de cette première séquence qui était pas trop mal, j'ai trouvé, et puis de ce résultat finalement qui propulse la vipère sur le devant de la scène.
Ouais. Écoute, encore une fois, bien. Bon, là, pour le coup, ils ont pris le temps de faire les choses un peu mieux que sur certains segments. Mais bon, c'est la scène mondiale de SmackDown, donc c'est normal quand même qu'on prenne un petit peu le temps. Arriver des New Day, très sympa, de les voir avec tous avec les ceintures. Bon, après, il y a eu ce teasing, là, ce teasing d'annonce de Bryan et Rowan. Bon, je suis pas trop fan de quand ils annoncent qu'ils vont faire quelque chose et que finalement, ils le font pas. Je trouve que c'est pas terrible, ce genre de truc. Surtout que là, en plus, c'est même pas... Il fait même pas le heal, genre je vais pas vous le dire parce que vous êtes des connards ou un truc comme ça. C'est juste, tu sais pas trop ce qui se passe dans sa tête. Bon, alors certes, il y a une intrigue hein, qui se forme autour de ce personnage de Daniel Bryan qui a eu un petit breakdown là, après leur défaite à Extreme Rules. Il a pété un câble, il est dans un état émotionnel manifestement très très agité. Donc on attend de savoir quelle est la suite pour Daniel Bryan. Bon, je peux trouver que c'était super bien exécuté ce début de segment. Par contre, après, voilà, l'arrivée de Samoa Joe, je trouvais que c'était bien enchaîné. Du bah écoute, ouais, si vous êtes là, tes copains, ils filent des title shots, et toi, Kofi, tu files des title shots aussi, parce que je suis chaud. je trouvais que c'était pas mal. Et puis surtout, ce que j'ai trouvé qui était vraiment bien, c'est que bah il y a d'autres personnes dans le vestiaire qui se sont réveillées, tu vois, genre qui disent bah attends, oh là, c'est aussi facile que ça, bah nous aussi on va y aller. Donc j'ai bien aimé l'arrivée d'Elias, bien aimé l'arrivée de Randy Orton, et puis du coup comme c'était des heels, enfin voilà, je trouve que ça s'enchaînait bien, le fait bah tiens, pas de title shot ce soir, bah pour la peine on va faire un 3v3, on va leur donner une leçon, ça vous dit les gars. Donc voilà, je trouve que c'était pas mal, le match derrière était top. Et puis bah, la victoire de Randy Orton, c'est en effet le bon choix. Elias n'est absolument pas depuis plusieurs semaines, malheureusement pour lui, hein, il est plus du tout dans la hype du moment comme il pouvait l'être il y a 2-3 mois. Et puis bah, Samoa Joe, il vient d'avoir sa chance. Donc du coup, Randy Orton, Kofi Kingston, c'est quelque chose qu'on attendait, ça me plaît bien. Donc en avant, il va y avoir des belles promos, je pense, jusqu'à SummerSlam. Et ouais, encore une fois, Kofi Kingston qui reçoit, on va dire, un nouveau bon méchant face à lui pour continuer son règne qui, moi, personnellement, continue à me laisser un petit peu de marbre, on va dire. Mais on ne peut pas reprocher, en tout cas, à la WWE de pas... Là, pour le coup, ils investissent. Hein, ils lui ont envoyé du heal costaud en veux-tu, en voilà. Là, on continue avec un quatrième, là, avec Randy Orton.
Ouais.
Donc on le met en position de réussir, en tout cas, hein, vraiment.
Ouais, exactement. Ouais, bah écoute, de toute façon, ouais, j'ai déjà partagé pareil, hein, mon avis sur Kofi Kingston, qui a du mal à vraiment avoir cette flamme, quoi, qui est toujours un petit peu pris dans son petit costume là, qui a du mal à sortir du rôle qu'on lui a donné. C'est vrai que c'est voilà, j'ai du mal également à m'enthousiasmer, mais au moins ça fait des belles affiches, peut-être des matchs qui sont pas incroyables, mais là en tout cas entre les deux, voilà, il y a un passé assez tumultueux et
il y a peut-être moyen de faire quelque chose.
Et Randy Orton, enfin comme tu l'as dit, on en voit tout ce qui se fait, enfin tout ce qui se fait de plus gros méchant possible face à Kofi Kingston. Il a un traitement assez royal.
Ouais, parce que c'est vrai qu'avec Kevin Owens, puis Dolph Ziggler, puis Samoa Joe, bon, c'est des heals de qualité. Donc, il avait le travail qui était pré-mâché, mais c'était pas... Il n'y avait pas non plus une histoire de dingue entre ces mecs-là. Ça. Bon, là, il y a peut-être quelque chose à faire d'un peu plus pour transcender un peu le personnage là, de Kofi Kingston. C'est vrai que de le retrouver face à face avec Randy Orton, ce qui a représenté tout son échec, finalement, sur la dernière décennie, parce que c'est lui qui l'a privé un petit peu du...
Il l'a poussé
du haut des marches, à l'époque où il était le plus proche de réussir. Là, ça y est, il a enfin réussi, c'est un petit peu... Il revient face à son ancien tourmenteur en disant bah tu vois voilà moi aussi je pouvais il y a moyen de faire des trucs pas mal, je pense.
Ouais, là il y a moyen de vraiment faire embarquer les gens qui un petit peu comme nous sont un petit peu dubitatifs quoi sur Kofi en tant que champion. Donc allez-y les gars, faites-nous plaisir. On passe rapidement sur la scène tag team féminine, parce que la WWE passe rapidement sur la scène tag team féminine, puisque les Kabuki Warriors ont battu les Iconics, via des comptes à l'extérieur, puisque bah, les Iconics, elles sont pas si bêtes que ça, elles sont malines, elles se sont tout simplement, elles sont restées à l'extérieur du ring jusqu'au compte de 10.
Voilà.
C'était vraiment bien vu, c'était drôle. Et bon, voilà.
Petit beatdown post-match quand même. Hein,
et un petit beat. Oui, effectivement. Bah ouais,
ça n'en restera pas là.
Ouais. C'est les face n'aiment pas perdre.
Ah non.
On a une petite séquence backstage de Carmel qui est recherché à Truth, qui se cachait dans une machine à laver, qui dit bah tiens porte un costume, on va se cacher à la Comic Con. Et puis Truth lui dit pourquoi tu m'as appelé. Alors Con, donc un ancien prisonnier quoi, un mec qui a fait de la tôle, il lui dit mais non mais j'ai fait mon temps quoi, enfin j'ai fait.
J'ai payé ma dette à la société.
J'ai payé ma dette à la société, donc c'est bon, laisse-moi tranquille.
C'est le petit gag du jour.
Andrade a disposé. Non, justement, Andrade n'a pas disposé d'Apollo Crews. Tout comme la veille, on a eu un peu hein, le même genre de situation avec des low-carders qui disposent de plus fort qu'eux. Donc, une petite rivalité là pour Andrade, pour garder au chaud, on va dire, en tout cas Chad, et puis Apollo Crews qui fait du temps d'antenne.
Oui.
Rien à signaler de ce côté-là, les mecs sont là, ils ont une rivalité, ils ont une histoire, ils ont quelque chose à se mettre sous la dent.
C'est ça, je préfère ça que de ne pas le voir.
Kevin Owens qui, du coup, est revenu ce soir sur invitation de Dolph Ziggler, qui l'a appelé, il a récupéré le numéro auprès de l'arbitre Drake, je crois. Et lui, il a allé voir Drake, il lui a refilé le numéro de téléphone de Kevin Owens. C'était un peu genre le mec balance les numéros de téléphone des autres.
Tranquille.
T'as pas le droit de faire ça, quoi. Tu balances pas les 06, les 07, comme ça, à n'importe qui. Donc, un bon match, ça kick dans tous les sens contre Kevin Owens passe son stunner pour le compte de nœud, mais Shane débarque et il casse le tombé, c'est ça?
Oui.
Shane se bouffe un stunner et du coup Kevin Owens
s'échappe. Entre-temps, le ring avait été encerclé
tous les heals de SmackDown ont appliqué. Donc voilà, on disait que Shane O'Mac a encore sa cour. Là, il y a encore des gens qui sont très contents de Shane O'Mac. On n'a pas fini avec cette histoire.
Oui.
Kevin Owens est obligé de s'échapper. Du coup, il perd par des comptes à l'extérieur, lui aussi. Je crois que c'est le résultat officiel.
Oui, c'est le résultat.
Et court Kevin, court. Mais jusqu'où va-t-il courir et où est-ce que tout ça va nous emmener? Je te pose la question.
C'est sûr qu'on va avoir Shane McMahon contre Kevin Owens à un moment ou un autre. Mais c'était sympa. J'ai bien aimé, moi, ce petit main event. Main event de weekly, classique, overbooking, un petit peu tout le coup des Lumberjacks aussi qui sont venus à mi-parcours. C'était sympa. Le finish était cool. Les Dolph Ziggler et Kevin Owens bossent plutôt bien ensemble, donc c'était sympa d'avoir un match un petit peu plus long entre les deux, parce que c'est vrai qu'à Extreme Rules on nous a coupé l'air sous le pied parce que ça avait duré 10 secondes. Donc globalement j'ai trouvé le segment assez sympa. Le deuxième, enfin même c'est le troisième stunner là, je pense que Shane McMahon se prend du coup de Kevin Owens, ça commence à faire beaucoup. J'ai bien aimé là la petite c'était drôle de voir, c'était quoi, c'était Charlie Caruso qui est arrivé alors que Shane McMahon était encore en train de ramasser ses dents par terre, et elle surgit de nulle part d'un angle comme ça avec le micro, et elle lui fout devant la
bouche,
genre alors Shane qu'en est-il de cette situation avec Kevin Owens et tout. Je trouvais que c'était très drôle, et puis tu vois il va payer tout ça,
il est en train de remettre ses dents, tu sais.
Ouais, il était en train de remettre ses dents et d'essayer de se relever avec Drew McIntyre qui l'aidait à se relever. Je trouvais que le segment était assez drôle et ridicule, mais dans le bon sens. Donc pas mal, mais écoute, la feute continue. Moi, dès que je peux voir Shane McMahon s'en prendre une dans la tronche en ce moment, je suis content, donc ça m'a bien plu. Maintenant, reste à savoir, est-ce que ça va être le dernier chapitre est-ce qu'on entame le dernier chapitre de cette histoire, Shane? Est-ce que Owens va être celui qui va enfin définitivement nous débarrasser de Shane McMahon et mener une rébellion qui est en train de se former, une sorte de guerre Ou est-ce que tout ça n'est que le début de peut-être un build un petit peu plus long qui va aller jusque Survivor Series? C'est vrai que l'histoire s'y prête aussi pas mal.
Oui.
On ne sait pas jusqu'à combien de temps on va en avoir le droit de Shane McMahon. Mais bon, pour l'instant, on va dire que ce que j'ai entreaperçu de Kevin Owens en leader de la révolution, porteur de flambeau là, de Steve Austin, ça me plaît pas mal. Il est bien dans ce rôle pour l'instant. Donc, voyons voir.
Il faut déjà, c'est bon, c'est définitif, c'est lui le héros du peuple, il faut arrêter de transférer.
Oui, il faut arrêter de changer, oui.
Ça, voilà, si on peut au moins faire ça, on aura déjà beaucoup avancé, on aura déjà gagné. Et Kevin Owens est parfait dans ce rôle, enfin, je ce mec est fait pour ça, quoi. C'est un petit con qui est une grande gueule, qui casse des gueules aussi quand il faut, qui peut parler pendant 30 minutes avec le micro s'il le faut pour abaisser le claqué de tout le monde. Il est parfait hein, pour ce rôle-là. Et c'est vrai que pour ce qui est la suite, Kevin Owens face à Shane à SummerSlam, je sais pas comment ils vont nous booker ça, mais moi je serai à la place des bookers, je m'emmerderai pas, je continue ça jusqu'à Survivor Series, quoi. Clairement,
ouais.
C'est fait pour d'avoir tout le roster au Survivor Series qui passe, enfin toi, victoire de Kevin Owens sur Shane O'Mac, et puis je sais pas, tout le roster qui déroule. j'ai envie de voir
qui
ça.
Qui fait fiesta de finisher sur.
Mais oui, on utilise ça, et maintenant moi j'ai envie de le voir. Donc,
ouais.
Et je pense pas que c'est à SummerSlam que ça va se passer, ou alors ils nous mettent une stipu un peu, pas de Lumberjackman, mais un truc comme ça, tu sais, peut-être une espèce de chose un petit peu comme ça avec un enjeu, mais.
Je sais pas.
Mais bon.
Ouais.
En tout cas, effectivement, c'est plutôt bien gaulé. Si on peut rester focalisé sur SmackDown avec cette histoire-là, ça nous fera déjà un petit peu moins chier que toute la mélasse qu'on a vu droit jusqu'à aujourd'hui, où il était au four et au moulin et qu'on ne savait pas trop ce qu'ils avaient en tête. En tout cas, c'est effectivement avec cette belle image de Shane O'Mac qui répond aux questions d'une intervieweuse alors qu'il est... Mais il faut dire... il est insupportable et il a trop de temps d'antenne pendant tout ce temps-là, mais qu'est-ce qu'il est excellent dans ce rôle de petit con, enfin, du début à la fin. Allez, tu sais quoi, c'est l'heure du mot de la fin, justement.
Oui.
Le top, ton flop et ta note, s'il te plaît, Giscal. Et moi, mon top, ce sera Shane O'Mac.
Spoiler. Écoute, ma note, je vais rester sur ce que j'ai mis la semaine dernière, je crois. Je crois que j'ai mis 3,5. Bah, je vais recommencer. Bon SmackDown. Enfin, là, je commence vraiment à reprendre du plaisir. Ça se regarde très facilement. Je continue à ne pas aller au-dessus. Je me garde un peu de marge parce que le sentiment qui a prédominé cette semaine, c'est quand même qu'ils ont essayé de mettre beaucoup de choses en place, mais quitte à peut-être bâcler pas mal de choses. C'est-à-dire qu'ils ont essayé de caser presque le contenu de deux SmackDown en un. Alors, tout était relativement bon. Mais du coup, il n'y a rien qui a explosé, parce que forcément, quand tu coupes un petit peu tous les segments de moitié, ça donne une impression d'inachevé. Mais bon, ça reste quand même très sympa, alors je vais mettre 3,5. Mais ce qui fait que j'ai eu beaucoup de mal à trouver un top, parce que il n'y a pas eu le truc qui m'a fait dire « Ah ouais, ce segment était vraiment génial », parce que j'ai toujours eu un petit peu l'impression qu'il manquait un petit truc. Alors, je vais quand même donner mon top cette semaine à Aleister Black et son match, qui était, très costaud, une belle victoire, bien balèze, qui continue de me vendre le projet Aleister Black, là, le projet Fight Club là, qu'il essaye de promouvoir, j'aime beaucoup. Donc j'ai trouvé qu'ils avaient fait un nouveau pas dans la bonne direction avec ça cette semaine. Et mon flop, écoute, c'est un petit peu la même chose que les tops, du coup c'était compliqué, parce qu'il n'y avait rien non plus d'horrible. On va dire que je trouve que la vraie occasion manquée, peut-être, c'est ce truc extrêmement bâclé de Ember Moon et de Bayley qui, je pense que c'est dommage de peut-être ne pas avoir alloué 5 minutes de plus à ce match pour encore plus élever Ember Moon au statut que... Enfin, Bayley donnait un petit peu l'impression de survendre Ember Moon, je trouve, après ce match, donc c'est... C'est un petit flop, ils ont pêché par trop vouloir en faire. Et puis ma note, je l'ai déjà donnée, donc voilà.
Juste un petit clin d'œil, au backstage, on a eu aussi Ali qui allait chercher provoquer Nakamura. Ouais,
attention.
Ça, c'est intéressant.
Ah, Mustapha Ali.
Ouais. Ouais, Mustapha Ali qui allait donc voir Nakamura. Par contre, c'est un petit peu à chaque fois le même. Ils utilisent le même ressort
oui,
pour cette
le titre
ceinture,
intercontinental, c'est pas compliqué. Hein. Genre, ouais. Ils viennent voir le champion et dire ça va allez,
bravo,
à la semaine.
Bravo. Ouais. Ça, on aura l'occasion d'en reparler. On aura l'occasion d'en reparler. Alors, mon top, vous l'avez compris, je vais spoiler, c'est Shane O'Mac. Alors, je vais lui donner du... Enfin, il a quand même sacrément botché ce stunner. Ça, il faut pas botcher un stunner, surtout dans ce genre d'intrigue.
Je sais pas, ou alors il a été vraiment surpris. Il s'est pris un coup de pied un peu trop bas, je sais pas. Mais...
Moi, je sais pas, il a survendu le coup de pied. Et du coup, il était plus en position pour se faire choper la corde au cou. Là, donc, c'était un petit peu dommage. Ils auraient essayé à le rattraper, mais...
Et je sais pas, peut-être qu'il était un peu stiff, le coup de pied. Tu sais, on n'a pas vu, parce que c'est bizarre qu'il s'écroule comme ça. Donc,
Il est tombé par terre. Oh, bon, il avait... J'ai beau être matinal, j'ai mal. Mais bon... cette fausse note, j'ai trouvé excellent que ce soit dans l'intro où il était là à recevoir les compliments et puis après quand ça lui allait pas il disait oui d'accord oui mais enfin, c'était plutôt bien joué à la fin cette séquence effectivement d'interview qui...
on a plus de temps désolé
il faut le ridiculiser Shane O'Mac toi. Il faut qu'il soit ridicule hein, tellement il est mégalo donc ça a plutôt bien collé
et puis d'ailleurs au passage j'aurais presque pu lui donner mon top mais c'est vrai que dans ce segment d'intro on n'a pas parlé de Hamilton, la ring announcer qui a sorti le plus beau best in the world depuis, je pense, le début de la gimmick. Ça a duré... c'est incroyable, je pensais que c'était enregistré tellement ça a duré longtemps. C'était
même Hamilton, il est booké, toi. Donc effectivement, on booke peut-être un peu trop de monde. à vouloir voir tous vos chouchous, là, bah voilà où on en est. Et du coup, mon flop, c'est même que toi, c'est cette annonce d'Ember Moon, qui en demeurant est une excellente challengeuse, moi ça me convient tout à fait, mais effectivement, il y avait trop de décalage entre... Elle était l'euphorie, le... squash qu'il y avait juste derrière, et toute l'emphase incroyable qu'a mis Bailey dans l'annonce, tout ça était... ça ne collait pas du tout, quoi.
C'est vrai que c'était un peu trop.
C'est pas un énorme flop. Tout est là, hein. Franchement, tu l'as dit sur SmackDown, tout est là, mais ça ne sert à rien de trop précis. Enfin, prenez votre temps, c'est pas grave si on ne voit pas tout le monde tout le temps à SmackDown. Ce qui compte, c'est qu'on voit tout le monde de temps en temps avec des histoires, quoi, et on sera content, donc voilà.
Ils ont voulu il y avait le contenu de deux émissions, presque.
Il y avait le contenu de deux émissions. Tout ce qu'ils ont booké, tous les matchs qu'ils ont booké, là, avec leur scène d'intro, ils auraient pu attendre la semaine prochaine pour avoir Andrade contre Apollo Crews ou les matchs tag team. Toi, on aurait pu effectivement garder tout ça pour la semaine prochaine. Donc, on va voir, on va se calmer un petit peu. De toute façon, il y en a qui sont partis se reposer, là, à la fraîche, mettre au vert. Nous, on ne se met pas au vert, hein, catch-up, puisque c'est toutes les semaines qu'on analyse les shows de la WWE. Vous pouvez nous retrouver évidemment en audio sur iTunes, sur Spotify et sur PodCloud. YouTube pour la version vidéo. On a aussi un Discord. Le lien est dans la description. Les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, catch-up CDC. N'hésitez pas à commenter sous la vidéo pour nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Quel est votre top, votre flop et votre note? Mettez-nous des cœurs, des étoiles, des pouces vers le haut. Pouces vers le bas, c'est comme vous voulez. Hein. Vous avez le droit de
l'exprimer. Pas de problème.
C'est forum public.
Town Hall Meeting avec nos visiteurs.
N'hésitez pas également à partager, à parler de catch-up tout autour de vous. Ça aide un petit peu à la renommée mondiale de ce super podcast que nous proposons depuis plus de 3 ans maintenant. C'est plus de 3 ans, hein, il faut le dire. Je te remercie, Giscal, pour ta présence.
Ah, merci, Jérôme, pour cette présentation.
Et on vous donne à toutes et à tous rendez-vous la semaine prochaine. Et d'ici là, on vous souhaite évidemment une bonne semaine pleine de catch. Salut, salut.
Ciao tout le monde.